Toujours le plaisir de vous accompagner, amis auditeurs, à travers votre émission Sawa, ensemble jusqu'à midi. Et on parle aujourd'hui des troubles du langage, ou surtout cette matinée, on va la consacrer à la sensibilisation aux troubles 10 des handicaps invisibles dont souffrent de nombreux enfants et adultes aussi, dyslexie, dyspraxie et encore dysphasie, hein, et d'autres. Donc on va en parler aujourd'hui avec notre invité, monsieur Hervé Glazel, justement, qui est avec nous. Monsieur Glazel est neuropsychologue spécialisé dans le développement de l'enfant et de l'adolescent et les troubles des apprentissages. Il est fondateur des écoles du CEREN qui accueille 350 enfants présentant des troubles des apprentissages du CE2 à la 3e sur 5 sites à Paris et Lyon. Il va ouverture prochaine à Ruelle-Malmaison. Il est membre aussi du groupe de travail handicap du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Il est membre du groupe de travail aménagement aux examens de l'éducation nationale. Bonjour monsieur Glazel.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Très bien et merci beaucoup de m'avoir convié.
Merci à vous de nous consacrer cette matinée pour informer nos auditeurs et auditrices pour justement leur bien, puisque ces problèmes des troubles 10, ça concerne aussi les adultes et pas que, donc les enfants aussi. Ça nous intéresse d'avoir votre avis sur ces troubles, puisque la rentrée prochaine, elle est proche. Même si on pense qu'elle n'est pas pour tout de suite, mais il faut la préparer dès maintenant, n'est-ce pas ?
Tout à fait. Vous avez raison de dire que c'est un sujet qui touche beaucoup de monde. C'est en fait un sujet, et ce sont des troubles relativement répandus. Tout ce que vous avez cité, effectivement, autour des troubles 10, hein, c'est-à-dire les troubles du langage oral, dysphasie ou du langage écrit, les dyslexies, dysorthographie ou du geste, les dyspraxies, les troubles de l'attention, touchent entre 5 et 8% de la population. Donc on pense que dans chaque classe, il va y avoir 2 à 3 enfants qui vont avoir des troubles des apprentissages. Et dans l'ensemble, il y a environ 500 000 enfants dans le système éducatif qui souffrent de ces troubles. Donc c'est un problème de santé publique et qui concerne beaucoup de familles. C'est pour ça qu'il est important, en fait, de les informer de manière précise sur ces sujets.
En tout cas, on ne peut avoir ou espérer mieux que vous pour nous éclairer sur ces problèmes 10, puisque ça fait longtemps que vous êtes dans le domaine. Alors pour commencer, mettre la lumière sur ces troubles, qu'est-ce que c'est les troubles 10 ?
Les troubles 10, donc, c'est un trouble spécifique des apprentissages, c'est-à-dire en fait que notre cerveau traite de l'information et il peut y avoir, dans certains cas, certains types d'informations qui sont difficiles à traiter par le cerveau de l'enfant ou de l'adulte, et donc qui va présenter de ce fait un déficit spécifique dans un domaine particulier. Donc c'est généralement pas un problème global, ce sont généralement des enfants qui ont de bonnes compétences générales, mais qui vont être perturbés dans l'accès, par exemple, à la lecture. Je parle de la lecture parce que c'est un des troubles les plus répandus, la dyslexie, le trouble de la lecture, et qui va rendre la scolarité très difficile, puisque toute la scolarité dans nos écoles est donnée généralement à l'écrit. Et donc, en fait, cet enfant va être gêné au quotidien pour prendre l'information, lire les consignes et pouvoir comprendre en fait ce qu'on lui demande quand l'information lui est donnée par écrit. Donc, les troubles 10, c'est vraiment un trouble cognitif, un trouble du traitement de l'information par le cerveau. Ça n'a rien à voir avec un problème psychologique ou un problème familial. C'est en fait une difficulté particulière de pouvoir accéder à certains formats, donc de l'information.
Donc les parents doivent arrêter de penser que c'est un problème psychologique. Le plus dur, monsieur Glazel, c'est surtout le diagnostic. Très souvent, on a tendance à comprendre l'enfant ou ne pas comprendre l'enfant, que ce soit au sein de l'école ou au sein de la famille. Et on a tendance de comprendre ou de penser que l'enfant ne veut pas faire d'efforts alors qu'il est en difficulté. Le plus dur, c'est le diagnostic. Comment diagnostiquer justement ces troubles ?
Vous avez tout à fait raison. Ça, c'est vraiment un point de départ essentiel. Effectivement, autrement, les familles vont s'en vouloir, les enseignants vont être, gênés parce qu'ils auront le sentiment d'être en échec avec tel ou tel enfant. Donc, le point de départ, c'est une bonne compréhension à la fois des points forts et des difficultés de l'enfant. Et donc, cette démarche diagnostique, c'est le point de départ essentiel. Il va falloir généralement un bilan à large spectre qui va pouvoir toucher la plupart en fait des domaines du fonctionnement intellectuel et cognitif. Ce que je dirais, c'est que quand un enfant va présenter une particularité, une difficulté d'émergence du langage oral ou une difficulté d'accès à l'écrit en CP ou des difficultés d'écriture, on ira d'abord peut-être voir un spécialiste un peu pointu. On ira voir par exemple un orthophoniste ou un psychomotricien. Mais quand la difficulté est plus large, si vous voulez, quand l'inquiétude va toucher plusieurs domaines, à ce moment-là, il est intéressant de faire ce qu'on appelle un bilan neuropsychologique qui va permettre de faire une cartographie précise à la fois des talents, je répète bien que tous ces enfants ont des talents, il faut les repérer parce que ce sera nos points d'appui pour la suite de la prise en charge et de la scolarité, mais aussi des difficultés pour pointer du doigt là où c'est plus difficile et là il va falloir œuvrer et aider l'enfant à dépasser son trouble.
Et j'ai justement trouvé les mécanismes sous-jacents aux symptômes.
C'est exactement ça. C'est non seulement pouvoir authentifier le fait que l'enfant a une difficulté à un endroit particulier, de pouvoir ensuite être assez précis pour dire quels sont les mécanismes qui sont en jeu, et ensuite proposer une démarche de prise en charge qui sera généralement paramédicale et scolaire, puisque c'est bien ces deux volets-là qu'il faudra traiter simultanément. Donc être capable de stimuler l'enfant là où ça marche moins bien, ce sera le rôle d'un professionnel de santé généralement paramédical, et par ailleurs, en fait, d'accompagner l'enfant, la famille et l'école pour que la scolarité se passe bien et que l'enfant ne soit pas en échec scolaire du fait de son trouble.
En tout cas, vous nous avez bien éclairci ce que c'est et puis l'importance d'un bon diagnostic. Finalement, les causes vraiment, qu'est-ce qui amène un enfant dans la même famille à avoir plus de difficultés que l'autre? Est-ce que c'est dû à sa naissance? Est-ce que c'est prénatal? Comment ça commence, enfin, l'origine du problème?
Absolument, ça c'est vraiment une excellente question. Malheureusement, en fait, la science nous apporte encore des informations parcellaires sur le sujet. Alors tout d'abord, je le répète, il ne s'agit pas d'un trouble psychologique, donc ça touche en fait le fonctionnement cérébral. Alors quand on parle de fonctionnement cérébral, on se dit, oulala, ça doit être très grave. Pas tant que ça, parce que le cerveau, si vous voulez, c'est notre organe le plus plastique. Celui qui en fait va passer son temps à se réparer, à constamment en fait trouver des nouveaux modes de fonctionnement et qui permettra le contournement des difficultés. Donc quelque part, si vous voulez, c'est d'abord effectivement donc une sorte de trouble spécifique du fonctionnement cérébral qui peut être très d'origine très variée. Il peut y avoir effectivement un certain nombre de cas des questions périnatales, il peut y avoir des questions génétiques. Vous avez des histoires familiales où il y a plusieurs il peut y avoir des parents, il peut y avoir d'autres frères et sœurs qui peuvent avoir des difficultés comparables. Ça peut être des questions plus développementales, c'est-à-dire dans la courbe du développement de l'enfant qui s'étale quand même sur une très longue période, depuis la naissance jusqu'au jeune âge adulte, des perturbations qui vont ensuite mener l'enfant à avoir plus de mal que d'autres à atteindre certains types de traitement de l'information. Donc, quelque part aujourd'hui, on est très fin dans notre description des phénomènes, mais on a plus de mal à pointer le doigt sur la cause. Au fond, d'une certaine manière, c'est peu important. Ce qui est essentiel, c'est de d'élucider là où c'est compliqué pour l'enfant et de le soulager. Et donc, de mettre au jour les mécanismes sous-jacents de ces difficultés pour pouvoir agir. C'est ça qui me paraît en fait fondamental, plus que de découvrir la cause.
Donc, la prise en charge doit être absolument pendant l'enfance, et puis ces problèmes ou ces troubles doivent être diagnostiqués assez précocement pour que les parents puissent aider l'enfant à justement avoir un développement sain, en tout cas une prise en charge précoce aidera cet enfant qui deviendra un homme ou une femme dans un avenir proche à s'assumer. Très souvent, on a tendance à voir des femmes et des hommes dyslexiques qui ne savaient pas et qu'ils découvrent plus tard. Donc, ça les empêche d'avancer dans leur avenir, manque de confiance de soi. Donc, ça se développe vers un problème psychologique qui, à la base, ne devait pas l'être.
Vous avez tout à fait raison. Ça, c'est vraiment un point important, c'est de dire qu'effectivement, un dépistage précoce, c'est effectivement la garantie que l'enfant ne va pas rentrer dans des difficultés scolaires insurmontables, avec une famille épuisée, avec, si vous voulez, effectivement, une perte d'estime de soi. Donc l'idée, si vous voulez, c'est que quand on a des alertes, à ce moment-là, effectivement, pouvoir partager avec les enseignants ces interrogations, pouvoir rencontrer des spécialistes, réaliser en fait les bilans appropriés, de façon à pointer du doigt en fait ce qui peut gêner l'enfant et agir tôt. Parce que comme je le disais, en fait notre cerveau est plastique, donc il va pouvoir en fait compenser ses difficultés s'il est correctement stimulé et que on ne va pas confronter constamment l'enfant à sa difficulté. Sinon, comme vous le disiez, effectivement il va y avoir un épuisement de l'enfant, il va y avoir effectivement des logiques de rupture, du nomadisme éventuellement scolaire, et puis on va rentrer dans l'âge adulte sans les bases essentielles, il y aura ce qu'on appelle une perte de chance, hein, une véritable perte de chance en termes de vie, de profession, de ressources, et donc là pour le coup c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter à tout prix. Aujourd'hui, heureusement, on a les modèles scientifiques qui nous permettent de réfléchir et de penser ces troubles. Nous avons les outils de test qui nous permettent en fait d'élucider ces difficultés-là. Donc, il n'y a pas de raison, si vous voulez, de laisser perdurer cette difficulté-là. Il faut accompagner ces familles.
En tout cas, vous l'avez bien exprimé, Monsieur Glasel, contrairement au handicap neuromoteur ou sensoriel, les pathologies neuropsychologiques sont souvent cachées, invisibles, ne se révélant pas par des manifestations indirectes comme l'échec scolaire, troubles inattendus des acquisitions, comportements aussi apparemment inexplicables. Justement, tout ce que vous avez dit, c'est important pour les parents qui nous écoutent, préparer ces enfants pour la rentrée scolaire, pour un développement sain, dans la paisibilité, sans que les parents aient peur de cette rentrée, préparer le chemin pour les parents et les enfants. Comment on doit faire ?
Alors ça, pour le coup, il faut être très clair. Il me semble qu'en fait, c'est en fait une responsabilité très lourde pour les familles. Il me semble pas, si vous voulez, que les parents doivent se charger de la rééducation de leur enfant ou, si vous voulez, d'une stimulation scolaire qui pourrait apparaître excessive. Les parents doivent rester les parents. Ils n'ont pas, si vous voulez, forcément les acquis qui va permettre de se dire comment je peux accompagner mon enfant au mieux. C'est en même, ce sont à des professionnels aguerris de pouvoir les guider.
Absolument.
La première règle, si vous voulez, c'est de contourner les troubles. Il faut bien comprendre que l'enfant peut réussir en dépit de son trouble. Donc si j'ai du mal, par exemple, à lire, eh bien, en fait, il suffit, en fait, que mon parent, mon frère, ma sœur, en fait, la personne qui va s'occuper de moi ou qui va me faire travailler cet été, éventuellement, me m'aide à contourner mes difficultés. Donc, va me lire les consignes, va de ce fait, effectivement, bypasser, si vous voulez, la lecture, et donc permettre à l'enfant d'accéder au contenu de la demande en dépit de sa difficulté de lecture. Si l'enfant a du mal à écrire, eh ben on tient la plume. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un adulte à ses côtés qui va tenir la plume et qui va écrire à la place. L'enfant peut aussi enregistrer ses réponses. Maintenant, il y a toutes sortes d'outils logiciels sur les smartphones ou sur un clavier d'ordinateur qui permet de taper sa réponse ou de la dicter. Donc ça, je dirais, le premier point, c'est que la famille doit se dire, je ne suis pas là en fait pour être l'orthophoniste de mon enfant ou être un spécialiste qui va le stimuler de manière spécifique, qui va l'aider à contourner ses difficultés. Je dirais aussi, si vous voulez, que le temps des vacances, c'est quand même le temps du repos. C'est le temps où on va pouvoir souffler. Souvent, en fait, un enfant en difficulté, l'année scolaire est déjà très lourde, très pénible. Ça peut être aussi un vrai poids pour les familles. Donc, ne pas passer trop de temps sur tout ça pendant l'été. Préparer la rentrée, il faut la préparer dans la joie et la satisfaction. Donc, il faut d'abord souffler. Il faut avoir une véritable période, si si vous voulez, de vacances au sens propre du terme, de libération de l'esprit, et que l'enfant ne soit pas saturé d'apprentissage supplémentaire. Donc préparer, ça veut dire aussi effectivement prendre du recul. Et préparer, ça veut dire aussi parler avec l'école et réfléchir pour la rentrée prochaine aux différents aménagements qu'on va mettre en place pour l'enfant. Parce que ça, c'est la responsabilité de l'école qui est maintenant totalement reconnue depuis 2005. Hein, il y a une loi autour, si vous voulez, de l'accueil des enfants à besoins particuliers qui fait que il va y avoir une responsabilité partagée de l'école, de la famille et des spécialistes. Et l'école aujourd'hui est totalement équipée pour pouvoir en fait accueillir l'enfant avec ce qu'on appelle des plans. Hein. Il y a deux types de plans. Un plan d'accueil personnalisé qui sera un accord entre l'école et la famille pour l'année à venir en disant ben voilà comment on va travailler avec l'enfant pour l'éviter de s'épuiser dans sa scolarité. Ou ça peut aller plus loin si on pense que la nature ou le trouble de l'enfant est d'intensité suffisante. À ce moment-là, on passera éventuellement par une reconnaissance du handicap de l'enfant puisque c'est une perte de chance. Et à ce moment-là, il y aura un plan personnalisé de scolarisation avec le suivi d'un enseignant référent de l'éducation nationale. Donc voilà la préparation, hein. C'est de ne pas se charger de quelque chose qui n'est pas de l'ordre de ma responsabilité de parent. Quand je fais les devoirs, c'est de contourner la difficulté de l'enfant et enfin de travailler avec l'école et les spécialistes pour permettre à l'enfant de contourner ses troubles.
En tout cas, un travail en binôme, j'ai envie de dire, entre la famille et l'école s'avère important, puisque les uns ont l'outil de l'éducation qui peuvent permettre à l'enfant de se développer dans des conditions qui comprennent ses difficultés ou qui respectent ses difficultés. Les parents sont là pour justement appuyer ces outils donnés à l'enfant à l'école. En tout cas, merci infiniment, Monsieur Hervé Glazel. Je rappelle que vous êtes neuropsychologue, fondateur de l'école Sérène, et aussi auteur de plusieurs livres. Hein. J'invite nos amis auditeurs et auditrices à voir vos livres. Une école sans échec, l'enfant en difficulté et les sciences cognitives chez les éditions Odile Jacob, et pas que. Donc vous avez plusieurs livres, ils peuvent choisir ceux qui vont avec l'état de leur enfant. Merci infiniment d'avoir participé avec nous.
Merci infiniment de m'avoir invité et je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end.
À vous aussi, à très bientôt.
À très bientôt, au revoir.
Au revoir.